Laudetur Jesus Christus.
Bâtir une Europe puissance et une défense crédible, Emmanuel Macron dresse ses ambitions pour l'Union européenne dans un long discours à la Sorbonne à Paris, un discours aux airs de lancement de campagne à 6 semaines des élections européennes. La France fait partie des 18 pays qui appellent dans une déclaration commune à la libération des otages retenus à Gaza par le Hamas. Selon ce communiqué diffusé aujourd'hui par la Maison Blanche, un tel accord permettrait un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Dans ce journal, nous entendrons l'inquiétude des évêques au Pérou, où l'euthanasie a été pratiquée pour la première fois dimanche dernier. Et puis nous irons au Portugal, où le pays célèbre aujourd'hui les 50 ans de la révolution des œillets. Que reste-t-il de l'héritage démocratique de cette révolution aujourd'hui ? Décryptage à suivre.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. En France, coup d'accélérateur dans la campagne européenne. Dans un discours à l'université de la Sorbonne à Paris, Emmanuel Macron a mis en garde contre la mort de l'Union européenne. Le président français appelle ainsi un nouveau concept stratégique de défense européenne et de modèle économique. Une prise de parole aux airs de lancement de campagne à 6 semaines du scrutin européen. Décryptage avec notre correspondante en France, Marie-Christine Bonzon.
Dans son discours, Emmanuel Macron a défendu l'idée d'une souveraineté européenne, une idée qu'il avait lancée en 2017, mais qui ne s'est pas encore concrétisée. L'idée de souveraineté européenne s'est imposée, maintient cependant le président français, dont l'ambition déclarée est de peser sur l'ordre du jour stratégique de la prochaine Commission européenne, qui sera désignée après les élections de juin. Évoquant la coopération exceptionnelle des membres de l'Union européenne durant l'épidémie de Covid et la crise énergétique engendrée par l'invasion russe de l'Ukraine, Emmanuel Macron a appelé l'Europe à se transformer. Le président français, qui avait déclaré l'OTAN en état de mort cérébrale avant la guerre en Ukraine, estime aujourd'hui que l'Europe est encerclée, qu'elle risque d'être reléguée et même qu'elle peut mourir. Pour Monsieur Macron, la survie de l'Europe dépend de choix qu'elle doit faire maintenant face à la Chine et aux États-Unis, face aussi à d'autres pays tels que la Russie et l'Iran. Le chef d'État français a notamment plaidé en faveur d'un réarmement militaire des Européens et d'un système économique qui ne sacrifie pas la création d'emplois au nom de la protection de l'environnement. Le discours de Monsieur Macron intervient alors qu'en vue des élections européennes, son parti est largement distancé par le Rassemblement national de Marine Le Pen. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
À propos de défense européenne, le Premier ministre suédois a annoncé aujourd'hui envoyer dès l'année prochaine un bataillon de 500 soldats en Lettonie, pays frontalier de la Russie. Il s'agit de la toute première contribution des troupes de Stockholm dans le cadre de sa récente adhésion à l'OTAN. Toujours sous fond de guerre en Ukraine, le Danemark emboîte le pas aux États-Unis. Le gouvernement danois va augmenter son fonds d'aide militaire à Kiev de 590 millions d'euros. Le Danemark, qui fait également partie des 18 pays qui appellent dans un texte commun ce jeudi à la libération immédiate de tous les otages retenus par le Hamas à Gaza. Le texte diffusé par la Maison Blanche assure que cela permettrait un cessez-le-feu immédiat et prolongé à Gaza, mais aussi la livraison accrue d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Eux se chargent de venir en aide aux réfugiés palestiniens de la région. L'UNRWA espère la reprise des coopérations avec ses donateurs après la publication d'un rapport en début de semaine par l'ONU, soulignant l'absence de preuves de liens existants avec le Hamas. En l'état, le directeur de l'agence onusienne explique pouvoir tenir financièrement jusqu'à fin juin. 5,9 millions de Palestiniens dépendent de cette organisation à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi en Syrie, au Liban et en Jordanie. La perspective d'un arrêt du financement de l'agence a provoqué l'inquiétude dans les camps de réfugiés. Le reportage de notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami.
La crainte d'arrêter le travail de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés continue de dominer des millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, en particulier avec la suspension de son financement par un certain nombre de pays donateurs sur fond d'accusations d'employés des personnes qui auraient participé à l'attaque du 7 octobre contre Israël. Les préoccupations des réfugiés en Jordanie ne se limitent pas à l'aide financière ou au secours, mais comme le dit le réfugié Abou Ahmed, la question s'étend à la fourniture de services d'éducation et de santé que l'UNRWA fournit aux réfugiés depuis environ 70 ans.
Ma famille et moi avons un dossier à l'UNRWA et mes enfants reçoivent une éducation de la première à la dixième année. Nous recevons des soins de santé dans les centres de santé du camp de Baka et du camp d'Al-Wadat, qui sont un peu éloignés de chez moi. Mais en fin de compte, l'UNRWA fournit des services éducatifs et de santé qui sont importants pour nous.
De son côté, le secrétaire du comité suprême pour la défense du droit au retour en Jordanie, Othman Al-Shohi, estime qu'Israël travaille de toutes ses forces pour éliminer complètement l'UNRWA en arrêtant son financement.
Il s'agit d'une des nombreuses tentatives visant à mettre fin à l'UNRWA. L'une des tentatives consistait à définir un réfugié comme étant uniquement quelqu'un qui avait quitté la Palestine et à révoquer le statut de réfugié à ses enfants et petits-enfants. Nous avons récemment soumis une pétition de protestation aux Nations Unies pour soutenir le secrétaire général de l'ONU dans ses démarches pour défendre l'agence.
Selon les données de l'UNRWA, plus de 2 millions de réfugiés palestiniens enregistrés vivent en Jordanie, ce qui fait du royaume le plus gros pays d'accueil de toute la région.
Reportage de Mohamed Erami, notre correspondant en Jordanie. Il était très attendu en Haïti. Le conseil présidentiel de transition a prêté serment aujourd'hui, alors que le pays est toujours plongé dans une profonde crise politique et sécuritaire. Ce conseil, constitué de 9 membres qui seront chargés de former un gouvernement intérimaire avant la tenue des prochaines élections. En parallèle, le Premier ministre contesté Ariel Henry a officialisé dans un courrier aujourd'hui le départ de son gouvernement. Une délégation des évêques de France était reçue hier par la commission parlementaire sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. L'occasion pour les évêques d'exprimer une nouvelle fois leurs doutes sur le bien fondé du projet. L'épiscopat français continue de soutenir le développement des unités de soins palliatifs avec une meilleure application de la législation existante. Pendant ce temps-là, à plus de 9000 km de là, au Pérou, l'euthanasie a été pratiquée pour la toute première fois. C'était dimanche dernier. Sur une femme âgée de 47 ans et atteinte d'une maladie incurable. Dans un communiqué rendu public hier, les évêques péruviens ont eux aussi exprimé leurs inquiétudes. Myriam Sandouno.
Oui, Alexandra, les évêques péruviens haussent le ton et réitèrent que l'euthanasie sera toujours une mauvaise option qu'aucune autorité ne peut légitimer ou permettre. Cette pratique, qui a mis fin à la vie d'Anna Estrada, viole le droit inaliénable à la vie, a déclaré la conférence épiscopale péruvienne. Atteinte d'une maladie incurable, vous l'avez dit, qui a affaibli les muscles, la jeune militante de l'euthanasie de 47 ans a pu obtenir le droit de mourir que lui a accordé la Cour suprême en 2022. Mais pour les évêques, l'être humain créé à l'image de Dieu possède une dignité rendue plus profonde par l'incarnation du Christ. La souffrance ne fait pas perdre à la personne malade la dignité, mais peut devenir plutôt une occasion de prendre davantage conscience de ce qui est précieux pour la personne. Humaine. La vie est un don de Dieu que l'on reçoit pour en prendre soin. C'est pourquoi, ont déclaré les évêques, aider la personne suicidaire à mettre fin à ses jours est une atteinte objective à la dignité de la personne qui le demande.
Merci Myriam Sandouno. On termine ce journal au Portugal. Le pays commémore aujourd'hui les 50 ans de la révolution des œillets qui a mis fin à près de 50 ans de dictature. Mais l'héritage du dictateur Salazar est aujourd'hui ravivé par le parti d'extrême droite Chega, qui a obtenu presque 20% des votes aux législatives du 10 mars, se pose alors la question de la transmission de la mémoire et de l'héritage démocratique de cette révolution. Les commémorations sont nécessaires mais pas suffisantes, estime Yves Léonard, spécialiste du Portugal, membre du Centre d'histoire de Sciences Po Paris. On l'écoute.
La commémoration fige un petit peu, elle institutionnalise, c'est important, mais elle fige aussi dans un passé qui tend à s'éloigner et dont le caractère vivant échappe à pas mal de nos contemporains et les jeunes notamment. Autrement dit, comment faire pour que cet événement reste attractif, dynamique, qu'il continue d'incarner, de représenter quelque chose et non pas se figer dans une dimension un peu d'une sorte de mausolée, et avec la chance peut-être concernant le Portugal que c'est une date qui claque. Mais il faut pour autant la rendre toujours aussi vivante. Maintenant que 50 ans après, la plupart de ces acteurs principaux, ceux qui ont fait le coup d'État, disparaissent. Et donc, il y a véritablement ce passage de la mémoire à l'histoire, cette interconnexion qui est toujours problématique quand il s'agit de construire une mémoire historique vivante, qui ne soit pas simplement légitimation, aussi importante soit-elle, mais qui fasse sens, qui permette aussi aux jeunes générations de s'en emparer pleinement et qu'on puisse en permanente arroser les œillets d'avril.
C'était Yves Léonard, membre du Centre d'histoire de Sciences Po Paris. Il répondait aux questions de Xavier Sartre. L'entretien est à retrouver en entier sur notre site internet www.vaticannews.va. ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité du Pape, du Vatican, de l'Église et du monde. Ça sera demain 8h30 heure de Rome. En attendant, excellente soirée à toutes et à tous.